Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre à l'occasion de cette présentation de nos résultats annuels de 2021. Je suis à côté de Jean-Brieuc Le Tinier, notre directeur financier, et nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui, même si c'est à distance, et d'autant que nos résultats, vous les verrez, sont excellents. Il y a un an, presque jour par jour, je vous présentais notre plan stratégique Everyday. Aujourd'hui, la remarquable performance réalisée par les groupes en 2021 traduit les premières réussites de ces plans. Nous en sommes très fiers. Et surtout, nous sommes fiers du travail collectif accompli grâce à l'engagement de nos 25 000 collaborateurs, premiers artisans de ce succès. C'est aussi l'occasion pour moi de remercier nos clients pour leur fidélité et leur soutien. Nous avons été très touchés par leur marque de reconnaissance et de confiance. Cela nous conforte dans notre ambition, devenir l'allié incontournable des consommateurs pour les accompagner dans une consommation responsable et durable pour l'usage quotidien de leur foyer. Je vous propose de commencer tout de suite par les réussites de cette année. Et puis Jean-Brieuc viendra pour les détails de notre performance financière. Nous avons démarré l'année, comme vous le savez, avec cette période de la pandémie. Et nous avons cette réalisation de l'année qui compte évidemment sur les succès de la performance du groupe, qui a été réalisée dans des moments de difficultés importantes. Et nous avons dû nous adapter, et grâce à l'agilité et la réactivité dont nos équipes y ont fait preuve, pour faire face à ces difficultés autour de la pandémie, notamment du Covid. Nous savons nous adapter à des périodes de fermeture et de réouverture de nos points de vente, tout en garantissant la sécurité sanitaire de nos employés et de nos clients. Nous avons surmonté les perturbations des chaînes logistiques grâce à la qualité des relations de long terme et la confiance avec nos fournisseurs. Nous avons su basculer très rapidement une partie plus importante de notre activité vers l'online grâce à nos larges compétences digitales et à la performance de nos solutions logistiques intégrées. Nous avons réussi aussi à livrer dans les meilleurs délais nos clients, même dans les périodes de pic de demande, grâce surtout à nos click and collect, possible grâce à notre réseau dense de magasins et aux partenariats solides noués avec les acteurs de la livraison. Enfin, nous avons renforcé la qualité du travail de nos équipes, la diversité et la parité, avec en particulier la signature en tout début d'année d'un premier accord groupe sur la qualité des vies au travail. Et surtout, non seulement nous avons traversé la crise Covid avec succès, mais nous avons pu nous projeter dans l'avenir en lançant, il y a un an, les plans stratégiques Everyday qui transforment la place qu'occupent les conseils, la durabilité et les services pour tous nos clients. Ces paris s'est révélé être gagnants. Nous constatons déjà les premières réussites et elles sont très encourageantes. Donc, 2021 est une année exceptionnelle pour notre groupe. Nos résultats sont excellents et traduisent à pertinence les succès de notre stratégie, la formidable exécution au quotidien de nos 25 000 collaborateurs dans l'ensemble de nos pays. Nos chiffres d'affaires dépassent pour la première fois les niveaux records des 8 milliards d'euros, en progression de 7,4% sur un an. Ainsi, pendant les 2 années de la crise, les ventes du groupe ont progressé de plus de 8,2% en pro forma. Nos ventes en ligne représentent aujourd'hui 26% de nos ventes totales, à un niveau conforme à nos projections et bien supérieur au niveau antérieur à l'épidémie, tout en gardant un taux de click and collect proche des 50%. Notre résultat opérationnel courant s'élève à 271 millions, en très forte progression versus 2020, et dépasse déjà les niveaux pro forma de 2019. Alors, comment comprendre l'évolution de nos activités pendant les périodes que nous venons de vivre? D'abord, en 2 mots, les comportements de nos marchés. Bien sûr, il y a des tendances très favorables directement liées à la crise que nous venons de traverser. Les gens ont passé plus de temps chez eux et ont eu besoin de s'équiper rapidement pour télétravailler, pour améliorer la qualité de vie de leur foyer ou tout simplement pour s'occuper pendant les périodes du confinement. Mais aussi, il y a des tendances de fond auxquelles la gamme de nos produits et la qualité de nos services répondent parfaitement. Les besoins de culture, avec un appétit croissant pour la bande dessinée, comme pour les adultes et la jeunesse. La recherche des produits authentiques, durables et réparables. La recherche d'une expérience sensorielle et des collectors, comme par exemple les retours du vinyle. Une demande des produits plus premium, qu'il y a eu un effet valeur et volume indéniable sur certaines catégories, l'attendu de notre offre, son positionnement et la qualité de nos vendeurs qui savent anticiper les tendances et décrypter les attentes de nos clients, nous donnent des atouts incomparables pour accompagner les tendances des fonds de nos marchés. Je vous illustre mes propos avec quelques exemples. Depuis 2 ans, nous avons fait mieux que les tendances de nos marchés. Et ça, ce n'est pas par hasard. C'est les résultats de nos choix stratégiques et tactiques dans notre politique d'achat et la profondeur de la gamme de nos offres. Nous avons une relation de confiance dans la durée avec nos fournisseurs. Cela nous a permis de maintenir une très bonne disponibilité de nos produits tout au long de l'année, malgré les perturbations de chaînes d'approvisionnement. Pour vendre, il ne faut pas simplement promettre, mais il faut savoir délivrer. Nous avons des offres exclusives sur des produits innovants et technologiques, comme pour la télévision, exemple, le modèle Samsung MicroLED, et bien, bien, bien plus d'autres tout au long de l'année. Nous offrons des événements culturels attractifs dans nos points de vente, avec les rencontres cette année de plus de 600 artistes entre septembre et décembre. Et c'est là, malgré le contexte sanitaire, et aussi où nous avons pu lancer en digital la plateforme L'Éclaireur au mois d'octobre, qui permet de porter ces rencontres même au monde digital. Nous diversifions notre offre avec l'extension de l'offre d'Arty Cuisine, qui compte déjà 185 points de vente, ou avec l'aménagement des nouveaux espaces dans nos magasins dédiés à la mobilité urbaine. C'est un marché, comme vous le savez, c'est très important pour le groupe. Comme vous le savez, un des axes stratégiques de notre plan Everyday est le développement de notre approche multicanale, qui conjugue le meilleur du monde physique et du digital. En 2021, nous avons à nouveau gagné 5 millions de nouveaux clients actifs sur le web, et les ventes digitales ont progressé 26%, ont représenté, pardon, 26% du total de nos ventes. C'est 7 points de mieux qu'en 2019, et cela nous permet de confirmer notre objectif d'atteindre au moins 30% des ventes digitales à l'horizon de 2025. Le succès de cette accélération digitale, nous le devons à non plus de 22 ans d'expertise des ventes en ligne en France et en Europe, ainsi qu'un ambitieux programme d'innovation et de transformation que nous menons. Dernièrement, nous avons par exemple lancé notre service Visio. Ce service Visio permet de mettre en relation nos clients avec des vendeurs experts. Et nous avons déjà réalisé plus de 150 000 contacts. Les résultats sont extraordinaires, avec un taux de conversion supérieur entre 2 et 3 fois et un très fort niveau d'engagement de nos clients. Je vous propose, en quelques minutes, de regarder en images ce service.
Dans un monde où le digital accélère fortement, n'oublions pas que le contact humain reste primordial, que l'expérience client fait toute la différence, que rien ne remplace les conseils personnalisés d'un vendeur. Fnac Darty réunit le meilleur des deux mondes, du digital et de la proximité. Dans cette jungle de l'hyperchoix qu'est le web, quoi de plus précieux que le conseil et l'échange en direct? Grâce à la visio, nos vendeurs en magasin s'invitent chez vous. Un service simple et immédiat.
Tu peux nous expliquer comment ça fonctionne?
Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc alors en fait c'est une application qui se nomme e-Advise. Dès qu'on a un appel d'un client, vous avez en fait la notification. Soit on peut voir le client directement qui commence à nous parler, soit il faut faire en fait la démarche de lui demander d'activer son micro et sa caméra pour qu'on puisse le voir et pour qu'il puisse nous entendre.
Géraldine, magasin de la Défense, bonjour.
Oui, bonjour. Je dois changer mon imprimante de toute urgence et je suis un peu perdu.
Il est essentiel que l'expertise et la passion de nos vendeurs continuent d'accompagner nos clients dans leurs nouveaux usages et que les clients puissent choisir les produits qui correspondent à leurs usages. Merci et à très bientôt sur nos sites et en magasin.
Un grand merci, vraiment, parce que je savais vraiment pas quoi choisir.
Excellent exemple d'exécution rapide de nos équipes. Dans le même esprit, et pour présenter les nouveaux produits, nous continuons à réaliser les live streams nous avons dépassé la centaine en 2021 contre juste une quarantaine l'année précédente. Nous réinventons la relation humaine dans le digital. Aujourd'hui, nous annonçons un partenariat majeur avec Google sur les clouds et la data. Nous allons ainsi améliorer la pertinence de nos outils de recherche et utiliser l'intelligence artificielle ou le machine learning pour apporter plus de services à nos clients. Nous serons rapidement les premiers distributeurs en France à mettre en place une nouvelle solution pour notre moteur de recherche grâce à la technologie des Google Search qui va nous permettre d'établir des nouveaux standards de performance pour les parcours d'achat en ligne et sur les mobiles. Je suis très satisfait de ces projets qui représentent une innovation majeure rendue possible grâce à la collaboration étroite avec les équipes de Google à qui je remercie pour leur confiance. Je suis très enthousiaste sur l'impact que ces projets aura pour nos clients. Nous savons que la qualité du moteur de recherche a été stratégique, car plus d'un visiteur sur deux arrivé sur la home page de nos sites utilise des moteurs pour chercher les produits qu'ils souhaitent acheter. Mais bien, pour réussir notre modèle omnicanal, il ne faut pas seulement réussir dans le digital. Il faut aussi réussir dans le monde physique et nos magasins qui sont des actifs clés de nos stratégies. À la fin 2021, nous avons un réseau dense des 957 magasins et nous menons deux actions en parallèle, l'extension de notre parc et son optimisation. Concernant l'extension de notre parc, nous avons une stratégie ciblée d'ouverture et nous sommes opportunistes. Nous ne cherchons pas la quantité, mais la qualité, une fois que le maillage est déjà dense, et l'adéquation avec les attentes de nos clients. Nous ouvrons de nouveaux points de vente quand cela fait du sens, et les plus souvent en franchise, à l'image des premiers magasins Nature et Découverte ouverts au Portugal ou l'ouverture de premiers magasins Fnac au Sénégal. Nous avons multiplié par deux les nombres des points de vente Wifix depuis son acquisition en 2018. L'enseigne compte désormais plus de 140 points de vente et devient l'acteur clé de la réparation des smartphones en France. Nous développons aussi en Suisse un partenariat avec les groupes Manor. Le déploiement s'y déroule comme prévu avec l'ouverture des shopping shops en Suisse romande. En 2022, sera l'année des ouvertures aussi dans la zone alémanique et au Tassin, permettant d'atteindre significativement la couverture des groupes dans la Suisse. Grâce à ces maillages territoriaux denses, l'offre Click & Collect représente désormais 46% des ventes digitales en ligne avec notre objectif des 50%. Concernant maintenant l'optimisation de notre parc existant, nous avons fait une revue approfondie de nos implantations et nos aménagements et nous menons les actions nécessaires pour, d'un côté, transférer certains magasins du centre-ville moins fréquentés vers des retail parks attirant plus de clients, comme ça a été le cas à Colmar ou à Bourges, réduire des surfaces comme à Murcia en Espagne, réallouer les espaces des produits qui sont en déclin comme les CD et les DVD au profil des nouvelles offres avec des dynamiques des ventes comme la mobilité urbaine ou les livres. Toutes ces actions vont se poursuivre sous les 2 à 3 prochaines années en fonction notamment de l'arrivée à échéance de certains baux commerciaux. Les groupes visent toujours à l'horizon 2025 d'avoir un parc des magasins intégrés 100% rentable. La deuxième axe de notre stratégie de nos plans Everyday est de promouvoir une consommation éclairée, responsable et durable. Ce n'est pas une notion, c'est un engagement, car nous sommes convaincus que c'est un enjeu crucial pour l'avenir de nos sociétés. Éclairer les choix de nos clients, cela signifie de mieux les informer. Nous avons étendu les labels choix durables à la Fnac. Cette sélection met en avant les 150 produits les plus durables en magasin Fnac et Darty et sur l'ensemble du site internet du groupe. Par ailleurs, nous avons progressé en matière de durabilité avec un score qui a évolué à 111 points en 2021, en progression de 6 points sur un an, et particulièrement grâce au travail sur la durée des mises à disposition des pièces détachées fournies par les constructeurs qui nous accompagnons et nous encourageons. Cet score agrège à la fois des critères de fiabilité et de réparabilité des produits et notre objectif est d'atteindre 135 d'ici à 2025. Enfin, nous avons accéléré nos initiatives pour promouvoir la réparabilité des produits. 2,1 millions de produits ont déjà été réparés par les groupes en 2021. notamment grâce au déploiement de notre offre de réparation d'Artimax, à l'extension des nombres d'espaces de service Wi-Fix, enseigne leader dédiée à la réparation des smartphones. Nous sommes donc confiants pour atteindre les 2,5 millions de produits réparés par an en 2025. Notre devoir est aussi d'être exemplaire dans notre façon de mener nos opérations. En 2021, nous avons réduit de 14% nos émissions de CO2 par rapport à 2019. Nous confirmons notre objectif de réduire 50% dès ce même niveau pour 2030. Nous venons de signer un deuxième accord avec la société Valeco qui permettra de couvrir 30% de la consommation annuelle du groupe en électricité verte en France à terme. Nous sommes également les premiers distributeurs à lancer un projet de livraison éclairée permettant à nos clients d'estimer l'impact environnemental des différents modes de livraison lors de l'achat en ligne et pouvoir faire ses choix en conséquence. Toutes ces initiatives et ces engagements concrets ont été salués, une fois encore en 2021, par les agences de notation extra-financière. Nous avons obtenu la note 1- du CDP, au-dessus de la moyenne du secteur de la distribution spécialisée, et nous intégrons pour la première fois la catégorie leadership. Moody's ESG Solutions, anciennement connu par Vigeo Eiris, nous a attribué un score de 54 sur 100, en progression de 6 points, confortant notre positionnement dans les top 10 européens. Enfin, en 2021, Nature et Découverte, qui pour mémoire a été un des premières enseignes françaises à obtenir le label B Corp, a vu ce label renouvelé pour la troisième fois consécutive. Pour conclure sur cette partie première de la présentation, j'aimerais bien vous en parler des Artimax, la révolution totale au monde du service. L'Artimax est une référence en termes de qualité et des valeurs ajoutées du service apporté à nos clients, car il permet, en cas de panne, d'assurer la réparation gratuite des produits achetés ou non chez Darty. Avec le lancement de deux offres complémentaires, nous avons désormais trois formules d'Artimax qui couvrent la réparation des appareils des gros électroménagers, mais aussi les segments du petit électroménager et de tous les univers multimédia, téléviseurs, home cinéma, son ou photo. Artimax, aujourd'hui, c'est déjà près de 105 000 abonnés fin 2021 contre seulement 200 000 fin 2020. Plus de 4 millions des produits sont déjà couverts par Artimax. C'est une priorité donnée à la réparabilité et à la durabilité des produits. Avec Artimax, nous créons une relation de confiance et de transparence avec nos clients. La fréquence d'achat est supérieure de 50% à celle du reste du client, avec un panier moyen supérieur aussi de 25%. Nous allons évidemment continuer à multiplier les services exclusifs et l'expérience client pour ces abonnés d'Artimax. Et pour illustrer cette volonté, je vous invite à regarder en avant-première les spots de la prochaine campagne publicitaire des Artimax. Vous avez pu le constater, nous allons enrichir l'offre d'Artimax, notamment en développant les conseils d'entretien permettant à nos clients d'éviter la survenue des pannes ou encore le déploiement d'un service d'assistance, un Visio, qui revient pour compléter les services en déréparation. D'autres initiatives verront les jours prochainement. Notre objectif, vous le savez, est d'atteindre 2 millions des clients d'Artimax d'ici à la fin 2025 et nous en sommes déjà en très bonne voie pour y parvenir. Je passe la parole maintenant à Jean Brieux pour que vous détaille nos résultats financiers de l'année et j'y reviendrai plus tard pour la conclusion.
Merci Enrique. Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose de revenir sur la performance opérationnelle de Fnac Darty en 2021 avant de rentrer dans les détails par région et de terminer par la performance financière du groupe. Regardons dans un premier temps le haut du compte de résultats. Dans le contexte de crise inédite qui s'est poursuivie en 2021, avec la fermeture d'une partie des magasins au cours du premier semestre, le groupe a enregistré un chiffre d'affaires record de 8,43 milliards d'euros. Le groupe présente ainsi une croissance exceptionnelle de plus 7% en données comparables par rapport à 2020 et de plus 8,2% par rapport au proforma de 2019, soit avec Nature et Découverte en année pleine. Cette solide performance résulte de la croissance des ventes en magasin, portée à la fois par un taux de transformation et un panier moyen en hausse, alors que le trafic reste pénalisé, notamment dans les centres-villes et les centres commerciaux. Compte tenu d'un effet de base de comparaison élevé, les ventes en ligne du groupe se sont consolidées au cours de l'année, avec un poids qui reste élevé à 26%, bien au-dessus du niveau pré-crise. Le taux de click and collect atteint 46% cette année, proche du niveau cible de 50% et en forte hausse de plus 7 points sur un an. À noter qu'au quatrième trimestre, dans un contexte d'ouverture normale des magasins, ce taux a même dépassé les 50%, preuve que les consommateurs plébiscitent fortement ce canal. Le taux de marge brute du groupe atteint 29,5% en 2021, en hausse de plus 30 points de base par rapport à 2020. Cette progression provient principalement, d'abord, d'un effet mix produit favorable pour environ plus 40 points de base, lié notamment à la hausse du trafic en magasin, qui a profité aux ventes de produits éditoriaux très sensibles aux achats d'impulsion. Ensuite, de la hausse des services pour environ plus 30 points de base, tiré notamment par la poursuite du déploiement de Darty Max. Ces deux éléments ont plus que compensé l'impact sur le taux de marge brute d'environ moins 15 points de base dû au recul de Nature et Découverte, qui a été pénalisé par la baisse du trafic en magasin liée à la forte présence de l'enseigne dans les centres-villes et les centres commerciaux et également à l'impact technique du développement de la franchise pour environ moins 25 points de base. Pour rappel, comme Enrique l'a dit, la franchise permet au groupe d'avoir un maillage territorial conséquent en étant présent dans des zones de chalandise plus petites. Cela permet à près de 90% des Français d'avoir un magasin Fnac ou Darty à moins de 15 minutes de leur domicile et assure la pertinence du modèle de click and collect. Ce développement en franchise est certes dilutif au niveau de la marge brute du groupe, mais il est relutif sur la marge d'EBIT. Les coûts opérationnels atteignent 2,103 milliards d'euros en hausse par rapport à 2020, en lien avec la forte croissance de l'activité. Je tiens à souligner la bonne tenue de nos coûts opérationnels, lesquels, exprimés en pourcentage du chiffre d'affaires, s'établissent en baisse de 20 points de base par rapport à l'année dernière, grâce à un bon contrôle et à l'exécution des plans de performance. Ces plans de performance ont permis une fois de plus cette année de compenser la hausse des coûts liés à l'inflation, grâce à des actions portées par l'ensemble des directions du groupe. Le résultat opérationnel courant s'établit à 271 millions d'euros en 2021, parfaitement en ligne avec la guidance que nous avions communiquée en octobre dernier. Et je tiens à vous rappeler que malgré un confinement et plusieurs périodes de fermeture de magasins qui ont marqué l'année 2021, nous enregistrons un résultat opérationnel courant supérieur à celui de 2019 pro forma, en excluant l'activité de billetterie, qui est encore fortement impactée par les restrictions sanitaires. Ainsi, la marge opérationnelle du groupe s'établit à 3,4%, en hausse de plus 50 points de base par rapport à 2020. Regardons les performances opérationnelles de chacune de nos régions et commençons par la zone France-Suisse. Au quatrième trimestre, le chiffre d'affaires de la zone est en recul de moins 3,3% en données comparables, dans un contexte de base de comparaison très élevé. Je vous rappelle que la croissance des ventes de cette zone au quatrième trimestre 2020 était particulièrement forte dans un contexte de sortie de confinement, à plus 11,7%. À noter également que les ventes en Suisse ont bénéficié au dernier trimestre des premiers effets de l'ouverture des 9 shopping shops Fnac au sein des magasins Manor, qui se sont ajoutés aux 4 premiers shopping shops test que nous avions ouverts fin 2020. Le groupe est donc en bonne voie pour atteindre son objectif de plus 100 millions d'euros de chiffre d'affaires en Suisse en année pleine, une fois l'ensemble des 27 shopping shops ouverts. En 2021, le chiffre d'affaires de la zone France-Suisse est en croissance à plus 7,2% en données comparables. Pour rappel, la zone a été pénalisée par un confinement et des fermetures de magasins, principalement dans les centres commerciaux au cours du premier semestre. Le trafic dans les magasins Nature et Découverte a continué à être fortement impacté cette année, avec notamment la fermeture de l'ensemble des magasins au cours du premier semestre, pénalisant à nouveau les ventes en 2021. Par canal de distribution, cette solide croissance résulte d'une bonne performance des magasins, Fnac et Darty, qui a plus que compensé une performance qui se normalise sur le web, dans un contexte de base de comparaison élevée. En termes de catégories de produits, la quasi-totalité sont en croissance, avec notamment la forte dynamique de la télévision portée par l'Euro de foot et les JO de Tokyo, la téléphonie, avec le succès du lancement de l'iPhone 13, et l'informatique, liée à la poursuite du télétravail, et ce, malgré des tensions sur les chaînes d'approvisionnement. L'électroménager continue d'afficher une solide croissance, tant sur le gros que sur le petit électroménager, porté par la poursuite des prises de parts de marché et la prise de conscience des consommateurs du bien-être à la maison, se traduisant par l'achat de produits plus haut de gamme. Les produits éditoriaux sont également en forte croissance portés par le livre. Ce dernier a bénéficié du maintien de plus de magasins ouverts par rapport à l'année dernière, de l'appétit grandissant de toutes les générations pour les BD, en particulier les mangas, et de la généralisation du pass culture pour les jeunes de 18 ans dans toutes les FNAC de France. Cette catégorie a également bénéficié d'une bonne dynamique de l'audio et du gaming, dont des reports de vente ont été enregistrés en 2021, suite aux ruptures de stock des nouvelles consoles PlayStation et Xbox en fin d'année dernière. Les catégories de diversification ont poursuivi leur forte croissance en 2021, portées principalement par les segments maison et design et mobilité urbaine, avec un fort engouement pour les trottinettes. Enfin, les services sont en croissance, tirés par la franchise, avec l'ouverture de 47 franchises au cours de l'année, et ont également bénéficié de la bonne dynamique des assurances et garanties et de l'accélération des offres d'Artimax, qui compte déjà près de 500 000 abonnés à fin décembre. À l'inverse, la marketplace a été impactée par le changement de la réglementation européenne de cet été et a enregistré des tensions sur le marché des produits techniques, notamment de la téléphonie. Enfin, la billetterie affiche une hausse de son activité, principalement au cours du dernier trimestre, mais cette reprise progressive a néanmoins été impactée par l'arrivée du variant Omicron en Europe au cours du mois de décembre. Ainsi, cette solide dynamique de chiffre d'affaires en 2021, couplée à un taux de marge brute en croissance, ont permis à la zone France-Suisse d'enregistrer un résultat opérationnel courant à 245 millions d'euros, en hausse de plus 51 millions par rapport à l'année dernière. Passons maintenant à la péninsule ibérique. Au quatrième trimestre, la zone a enregistré une baisse de moins 1,1% de ses ventes en données comparables. L'Espagne, pénalisée par un contexte d'environnement concurrentiel particulièrement élevé, a plus que compensé la bonne dynamique des ventes au Portugal enregistrées au cours du dernier trimestre. Sur l'année 2021, la zone a affiché une croissance de son chiffre d'affaires de plus 6,5% en données comparables, portée par une solide performance des magasins qui ont bénéficié d'un allègement progressif des restrictions sanitaires. Toutes les catégories de produits ont tiré la croissance de la zone, en particulier la télévision, la téléphonie, le son et le livre. L'informatique affiche quant à elle une croissance plus normative, compte tenu d'un effet de base très élevé. Et enfin, les services affichent une solide croissance sur la période, portée par la bonne dynamique des assurances et des garanties. La solide exécution commerciale des équipes en Espagne et au Portugal, ainsi que la bonne maîtrise des coûts opérationnels, permettent à la zone d'afficher un résultat opérationnel courant en hausse de plus 2 millions d'euros par rapport à 2020, à 11 millions. Enfin, la zone Belgique-Luxembourg a enregistré une croissance de son chiffre d'affaires à données comparables de plus 3,2% sur le dernier trimestre et de plus 5% l'année pleine. Cette croissance résulte d'une très bonne performance des 72 magasins Van den Borre et des 13 magasins Fnac de la zone. Par catégorie de produits, cette croissance a été portée principalement par la bonne dynamique des ventes de gros électroménagers chez Van den Borre, avec un prix de vente moyen en hausse, lié à une montée en gamme des produits achetés, notamment sur les appareils encastrables. Par ailleurs, la téléphonie, les livres et les services en magasin, tels que les abonnements au pack multimédia, affichent également tous de bonnes performances. La qualité de l'exécution opérationnelle des équipes, dans un contexte de pression concurrentielle toujours soutenue, permet à la zone d'afficher un résultat opérationnel courant à 15 millions d'euros, en hausse de plus de 2 millions par rapport à 2020. Passons maintenant au bas du compte de résultats. Les autres produits et charges non courants s'établissent à moins 10 millions d'euros en 2021, en baisse par rapport à 2020, et intègrent principalement des charges de restructuration. Le résultat opérationnel atteint ainsi 260 millions d'euros, en hausse de plus 61 millions par rapport à 2020. Le résultat financier s'élève à moins 42 millions d'euros pour l'année 2021 contre moins 51 en 2020. Cette baisse provient principalement de la revalorisation à la hausse de la juste valeur des parts du groupe dans le fonds de capital risque Daphne Purple, dans lequel Fnac Darty a investi en 2016. De plus, la nouvelle stratégie de financement mise en place en mars 2021 a permis l'optimisation des charges d'intérêt avec un allongement de la maturité moyenne de la dette du groupe. La charge d'impôt s'élève à moins 74 millions contre moins 60 millions en 2020. Cette dernière est en hausse sur un an, directement liée à la progression des résultats du groupe. Cependant, elle intègre comme prévu une baisse de la charge d'impôt liée à la CVAE pour près de 10 millions par rapport à 2020 et une baisse du taux d'IS conformément aux annonces du gouvernement. Ainsi, Le taux effectif d'impôt s'affiche à 34% en 2021, en retrait de moins 6 points par rapport à 2020. Le résultat net des activités poursuivies s'établit donc à 145 millions contre 88 millions l'an passé. Passons maintenant à l'analyse des flux de trésorerie disponibles à fin décembre. Le cash flow libre opérationnel hors IFRS 16 s'affiche en baisse de moins 22 millions par rapport à 2020, à un niveau qui reste élevé, à 170 millions d'euros. Cette performance reflète d'une part la hausse de l'EBITDA, en ligne avec l'évolution du résultat opérationnel courant que je vous ai expliqué précédemment. Elle reflète également la bonne gestion du besoin fonds de roulement dans un contexte de nécessaire reconstitution des stocks en début d'année, après, je vous le rappelle, une année 2020 que nous avons terminée avec un niveau de stock particulièrement bas. De plus, ce niveau de cash flow libre témoigne d'un pilotage pertinent et efficace de nos achats de marchandises afin de pallier les tensions sur la chaîne d'approvisionnement, principalement pour les produits dits pénuriques. Cette gestion agile des stocks a permis d'avoir un bon niveau de disponibilité des produits tout au long de l'année et d'assurer le succès des grands rendez-vous commerciaux de fin d'année. Concernant les investissements opérationnels, en 2021, ils sont revenus à un niveau normatif et se sont élevés à 117 millions, conformément à ce qui avait été annoncé par le groupe dans le cadre du plan stratégique Everyday. Ce niveau comprend notamment les investissements nécessaires au déploiement du partenariat Fnac avec Manor en Suisse, avec l'ouverture de 9 shop in-shop en 2021. En revanche, Fnac Darty anticipe une légère hausse de ses investissements à partir de 2022, avec la prise en compte du déploiement de 14 nouveaux shop in-shop Fnac au sein de Manor au premier semestre 2022, et d'une partie des investissements supplémentaires d'environ 40 millions d'euros au global, sur la durée du plan, dédiés à la modernisation et à la montée en gamme des équipements logistiques du groupe. Au total, sur 2022, les investissements du groupe seront plutôt de l'ordre de 140 à 150 millions d'euros, soit autour de 130 millions hors projet logistique. Quelques mots pour finir sur notre structure financière. La situation financière du groupe est saine, avec des capitaux propres de plus de 1,5 milliard d'euros et une trésorerie nette hors IFRS 16 de 247 millions à fin décembre 2021, en hausse de plus 133 millions sur un an. En parallèle et pour rappel, le groupe a annoncé en mars dernier la réussite de sa nouvelle stratégie de financement qui a consisté d'abord à rembourser l'intégralité du prêt garanti par l'État d'un montant de 500 millions d'euros que nous n'avons jamais utilisé et ensuite à étendre la ligne de crédit RCF à 500 millions d'euros avec une maturité maximale en 2028. Et cette nouvelle facilité de crédit intègre une composante RSE en cohérence avec les objectifs du plan stratégique Everyday, qui permettra au groupe d'améliorer ses conditions de financement si les objectifs sont atteints. Et enfin, à rembourser le Senior Term Loan Facility de 200 millions d'euros qui venait à échéance en avril 2023 et le remplacer par une obligation convertible pour 200 millions d'euros à échéance 2027. Grâce à cette nouvelle structure de financement, Fnac Darty optimise le coût moyen de sa dette et n'a plus d'échéance majeure de remboursement avant 2024. Ainsi, le groupe dispose à fin décembre 2021 de plus de 1 milliard d'euros de disponibilité, auquel s'ajoute la ligne de crédit RCF de 500 millions non tirée à date. Ce bilan extrêmement sain nous rend confiants pour faire face aux incertitudes liées au contexte de crise qui perdure. Cette solidité financière du groupe a été soulignée cette année par les trois agences de notation financière Standard & Poor's, Moody's et Scope, qui ont confirmé leur notation de crédit long terme respective, mais ont toutes relevé leurs perspectives à stable. Enfin, conformément à ce qui avait été annoncé lors du plan stratégique Everyday, le groupe a réactivé en 2021 sa politique de retour aux actionnaires avec le versement d'un premier dividende de 1 euro par action payé le 7 juillet dernier. Je repasse maintenant la parole à Enrique pour conclure cette présentation par des éléments de perspective et la politique de retour à l'actionnaire au titre de 2021.
Merci Jean-Brieuc. Nous allons passer rapidement sur la conclusion. Évidemment, nous abordons 2022 en confiance, fort de notre positionnement d'acteur omnicanal des références. À ce titre, il est complexe aujourd'hui de faire une projection sur l'année en cours, car nous avons, vous l'avez savez, des historiques qui rendent les comparaisons difficiles. Et en conséquence, je ne souhaite pas aujourd'hui me précipiter à en donner des projections trop précises. Néanmoins, je suis très confiant dans la capacité à nous développer, même dans un environnement incertaine. Nous continuerons à assurer la meilleure disponibilité et qualité possible des produits et des services, avec un positionnement sur des produits premium et en continuant à proposer des produits exclusifs. Considérant la très forte implication de nos collaborateurs en 2021 et soucieux de leur pouvoir d'achat, le groupe a décidé de verser une prime exceptionnelle des pouvoirs d'achat de 400 euros pour les collaborateurs travaillant en France dont son salaire annuel brut est inférieur à 35 000 euros. Le groupe mettra également en place une mesure similaire adaptée au contexte spécifique dans chaque pays, sauf si des mesures ont été déjà prises localement. Cette mesure concerne environ 19 000 collaborateurs. Pour 2022, nous allons accélérer la mise en œuvre de notre plan Everyday, articulé autour du service, du conseil et de la durabilité. Et maintenant, une solide maîtrise des coûts, nos efforts porteront principalement sur la poursuite de l'amélioration de l'expérience client, l'expansion du réseau du parc principalement en franchise, les renforcements de notre positionnement dans l'économie circulaire, l'apport d'un choix éclairé, différenciant pour nos clients, et enfin, la poursuite du développement du modèle de service par abonnement d'Artimax. Nous confirmons ainsi nos objectifs de cash flow libre opérationnel, environ 105 millions d'euros en cumul sous la période 2021-2023 et au moins 240 millions d'euros en rythme annuel à partir de 2025. Lors de la présentation du plan Everyday, il y a un an, je vous avais annoncé notre politique des retours à l'actionnaire qui avait déjà donné lieu au paiement d'un dividende de 1 euro par action au titre de l'exercice 2020. Compte tenu des résultats 2021 que je viens de vous annoncer et en respectant tous nos critères des pay-out et du niveau d'endettement du groupe, nous avons décidé avec les conseils de proposer lors de l'Assemblée générale du 18 mai prochain les versements d'un dividende de 2 euros par action. Ces dividendes représentent un taux de distribution de près de 37% et sera payable en totalité en numéraire. En conclusion, nous avons réussi ces périodes si extraordinaires grâce à la puissance de nos marques, à l'engagement de nos équipes et avec l'impulsion de notre projet Everyday, nous abordons une nouvelle étape passionnante de la vie de notre groupe. Je vous remercie pour votre attention et nous sommes maintenant avec Jean Brieuc disponibles pour répondre à vos questions. Bon, nous avons déjà une première question de Clément Genelot. Pensez-vous que l'objectif de 2 millions d'abonnés d'Artimax est toujours atteignable d'ici 2025? Bon, merci beaucoup Clément. Ou bien oui, nous avons atteint déjà ces niveaux de 105 000 qui est extrêmement encourageant. Il ne faut pas oublier qu'en 2021, nous avons suivi des périodes, des perturbations importantes dans nos magasins, des fermetures même. Et malgré cela, nous avons atteint un rythme très important des conquêtes des clients. Donc oui, nous confirmons cet objectif à 2025 de 2 millions d'abonnés d'Artimax. Il y a une autre question aussi de Clément. Quel est le niveau de hausse des prix moyens que vous pensez pouvoir faire passer aux consommateurs en 2022? Bon, évidemment, c'est un sujet d'actualité dans tous les secteurs. C'est un sujet qui est un peu d'avant nous. Nous sommes en train de définir les négociations commerciales avec nos fabricants pour la France. Il y aura évidemment des hausses des prix qui vont se présenter parce qu'il y a un impact des coûts des matières et des coûts de transport. Et probablement, ça va être plus visible qu'il a été en 2021. Nous travaillons avec nos partenaires pour veiller à que l'offre soit tout à fait disponible pour tout type de foyer, tout type de pouvoir d'achat. Donc s'il y a des hausses des prix qui vont y passer, on va veiller à que l'offre soit suffisamment large pour répondre à tous les besoins de nos consommateurs. Il y a une troisième question aussi. Quel est le niveau des revalorisations salariales sur 2022? Serez-vous en mesure de compenser cet impact pour la réduction des coûts supplémentaires? Bon, merci Clément. Nous venons d'annoncer cette prime qui va toucher ces nombres importants des collaborateurs. Si vous faites des maths, vous verrez que ça va coûter entre 6 à 7 millions d'euros, à peu près, coût annuel. Nous n'avons pas encore démarré nos négociations obligatoires avec nos partenaires sociaux, donc je ne me précipite pas à donner des fourchettes. Évidemment, nous sommes attentifs à une hausse de l'inflation qui est importante au début d'année, en espérant que ça s'est normalise au cours des prochains mois. Le groupe a été très volontariste ces dernières années pour accompagner le pouvoir d'achat de ses collaborateurs, ce qui ne nous a pas empêché de faire des réductions des coûts pour les pouvoir les financer. Et donc, j'espère que la dynamique des réductions des coûts se poursuive. Probablement, cette année, on aura, comme on l'a déjà annoncé avec Jean Brieuc, on aura probablement un peu plus de difficultés à effacer la totalité de l'inflation, mais on y met tous les moyens pour y arriver. Encore une question sur la billetterie. Quel est le scénario prendre pour la billetterie en 2022 par rapport à 2019? La billetterie a connu des phases de reprise déjà en 2021 importantes, notamment autour de l'été, où nous étions proches d'une normalité pendant quelques temps. Malheureusement, Omicron est arrivé, et surtout en fin d'année, ça réduit cette reprise. Nous sommes assez, je dirais, optimistes pour 2022. On sent que déjà l'épidémie commence à donner des signes de repli importants, et aussi tous les marchés de live, ils commencent à préparer un retour à une normalité plutôt tôt que tard. Je ne pense pas qu'on soit encore en totalité à niveau de 2019, mais je pense que 2022, ça va marquer clairement les reprises à un niveau d'activité important pour la billetterie. Peut-être, Jean-Brieuc, je t'ai laissé là à toi. Votre part des magasins propres n'est pas rentable en 2021? Qu'est-ce qu'était la part il y a 3-5 ans?
Alors, si on se positionne juste en 2019, on avait 5% du parc de magasins qui n'était pas rentable, et on avait engagé, lors du plan Everyday, une dynamique pour rendre l'intégralité de ce parc rentable d'ici 2025. 2021, en fait, ce n'est pas forcément une période de référence. Parce que 2021, si on regarde le parc, on a eu beaucoup de fermetures, et ça a impacté particulièrement quelques enseignes, des enseignes comme Wifix, comme Nature et Découverte, des magasins Fnac. Donc, je pense que 2021 n'est pas une base de comparaison pour nous qui est très pertinente. L'objectif, c'est toujours d'avoir 100% du parc rentable par rapport entre 2019 et 2025. Et aujourd'hui, on a des plans d'action qui ont été écrits sur l'intégralité de ces magasins. On a des plans d'action pour tous ces magasins qui vont les rendre rentables. Et comme Enrique l'a dit, on a commencé dès cette année. On a eu des transferts, des réductions de surface, des optimisations de mètres carrés à l'intérieur des magasins. Mais ça, comme vous l'avez déjà dit, ça prend du temps. Parce que dans la plupart des cas, ça passe par des négociations avec nos bailleurs. Les relations sont excellentes, mais ça passe par des négociations et qui vont prendre du temps et souvent être liées au renouvellement des baux. Donc 2021, Geoffroy, c'est pas une année très pertinente pour la rentabilité du parc. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que les plans d'action sont écrits et on délivrera 100% du parc en 2025.
Voilà. Nous avons une question aussi sur l'arrivée d'un nouveau actionnaire qui a été annoncé hier, Vesa, contrôlé par Daniel Kretinsky. La question est, avez-vous échangé avec lui ça, c'était une surprise de les voir venir au capital. Vous le savez, avec Jean-Brieuc, on a une politique assez active des rencontres de nos actionnaires et des intéressés à devenir actionnaires du groupe. Donc nous avons rencontré au cours de l'année dernière quelquefois M. Kretinsky, et qui a décidé de prendre part dans notre capital. Nous sommes satisfaits de voir qu'il y a quelqu'un qui s'intéresse au monde du retail spécialisé, qui a une large expérience dans ces mondes. Et il reconnaît que notre groupe aujourd'hui est un actif intéressant, pourra faire part des acteurs de leadership du futur, et comme il l'a dit, un des actifs plus solides dans ces mondes du retail. Donc on est satisfait de voir des nouveaux rentrants dans nos parts du capital. Nous avons une question pour laquelle je vais répondre très vite. Peut-on en avoir une idée de la performance du groupe en janvier? Vous savez très bien que nous n'allons pas commenter l'activité en cours. Ça, on va le laisser pour les mois d'avril. Ce qu'on peut dire, c'est que les magasins aujourd'hui sont tout à fait ouverts. On n'a pas eu des restrictions sanitaires dans aucun pays. Donc l'activité, je disais, qui est normalisée. N'oubliez pas la performance du groupe en T1 l'année dernière. Donc il ne faudra pas oublier les bases historiques. Mais du point de vue de l'opérationnalité, je pense que nous avons aujourd'hui des conditions de fonctionnement presque optimales. Voilà. Peut-être, Jean-Brieuc, une question sur combien pèse la baisse des Nature et Découverte dans les vies de 2021?
Sur Nature et Découverte, il faut juste garder en tête que c'est une enseigne qui représente à peu près 200 millions de chiffres d'affaires à l'échelle du groupe. Donc évidemment, leur performance en 2021 a été inférieure à ce qu'ils ont fait historiquement, mais on parle de montants assez peu significatifs à l'échelle du groupe. Donc voilà. Quelques millions d'euros, mais ce n'est pas majeur dans la construction de l'EBIT du groupe. Voilà.
Et après, nous avons une question aussi sur l'évolution de la marge. Tu as parlé 70 points de base. Et la question porte pure, quelle évolution entre l'impact et mix produits et services ?
Globalement, sur les 70 points de base qui se répartissent entre le mix produits et les services, à peu près 40 points de base mix produits, 30 points de base services.
Voilà. Là, maintenant, merci Geoffroy. Là, maintenant, on a une question de Nicolas Champ qui nous pose la question sur les coûts d'exploitation. Nous avons déjà un peu évoqué les sujets. Mais la question, c'est combien on imagine cette inflation, cette évolution des coûts. Est-ce qu'on va être en capacité de les compenser, Jean-Brieuc, si tu veux compléter.
L'évolution des coûts, c'est un peu tôt pour la juger, parce que la première de nos charges, c'est les frais de personnel et les NAO ne sont pas finis. Donc, ça dépendra des NAO. Les loyers, on n'est pas non plus totalement certain des niveaux d'ILC et d'indexation, ni de notre capacité à négocier. Donc c'est un peu tôt. Ce qu'on sait globalement, c'est qu'on aura des coûts qui vont augmenter un peu plus vite que ce qu'on a vu les années passées, ça c'est certain, et que ce sera un peu plus difficile pour nous, avec les plans de performance que nous mettons en place, et surtout le gros historique de plans de performance qu'on a depuis longtemps. C'est-à-dire qu'on a déjà une base de coûts qui est optimisée. On sait qu'on peut compenser chaque année un peu plus de 2% d'inflation. Là, si on dépasse, ce sera un peu plus compliqué, et ça dépendra également de notre capacité à pousser les hausses de prix aux consommateurs et donc à gérer une équation entre la hausse de la marge et la hausse des coûts. Et ça, on le verra au cours de l'année. Mais on n'est pas spécialement inquiet à ce niveau-là avec Enrique.
Mmh. Surtout, ce n'est pas totalement écrit que le niveau d'inflation que nous voyons aujourd'hui, il va s'étendre au cours de l'année. Il y a une question sur quel est le nombre des baux, un pourcentage qui arrive à échéance en 22, 23, 24, j'en prie.
Alors, c'est une question de Fabienne. Donc le nombre de baux qui arrivent à échéance, en fait, ils sont très linéaires, nos baux. C'est-à-dire qu'on a sur tous nos 600 magasins intégrés, on a un nombre de baux qui fait qu'on a une linéarité quasi parfaite sur les échéances en 3, 6, 9. Donc chaque année, on peut arriver à négocier autour d'un tiers de nos magasins qui arrivent à échéance, globalement, hein, au niveau du groupe.
Et après, nous avons une autre question. Sous quels sont les plans d'ouverture des magasins en 2022 hors Manor ?
On devrait ouvrir. Alors, tout dépend du contexte. Hein. Évidemment, on a vu qu'en 2020, on en ouvrait moins parce que le contexte était plus compliqué. Globalement, on devrait être entre 40 et 50 ouvertures cette année hors Manor, avec la très, très grande majorité de ces ouvertures sur des formats franchisés.
Voilà, il y a encore une dynamique très significative d'ouverture de parcs des franchises, à la fois sur des franchises classiques de proximité, d'Arty, Fnac, d'ouverture des magasins cuisine en franchise. Donc ça, c'est significatif. Et puis la croissance, qu'on n'en parle pas très souvent, la croissance du parc WeFix, que vous l'avez vu, qu'il a presque doublé, et pour lesquels on compte continuer à accélérer la pénétration dans les territoires. Donc encore des mètres carrés à conquérir pour les groupes. Nous avons une question. Ah oui, vous avez mentionné des pressions concurrentielles en Espagne. Pour élaborer, est-ce que c'est Economy qui investit en promotion ? D'abord, je pense qu'on a pu constater que les schémas des sorties de la crise des différents pays a été différent et c'est très lié à la politique publique qui ont été mises en place par les gouvernements. Je pense qu'au nord de l'Europe, en particulier en France, nous avons assisté à un soutien très fort, avec des moyens très colossaux et très importants pour l'économie, les pouvoirs d'achat et les entrepreneurs. Donc, qu'est-ce qui a fait que la reprise, et on les voit par la croissance du PIB, par la consommation, a été très soutenue. Il y a eu d'autres pays où des politiques de ce type ont été appliquées aussi, mais avec des moyens plus limités. Et donc, on a vécu en 2021 une reprise plus progressive. Et donc, en conséquence, quand les affaires sont un peu plus complexes, on a assisté à une compétition beaucoup plus forte et parfois des niveaux d'agressivité importants. Je dirais dans la généralité du marché. Ce n'est pas lié à un acteur particulièrement, mais c'est les marchés globalement. Et c'est lié à cette espèce de manque des tensions, des consommations des clients. J'espère que 2022, ça va marquer un signe contraire. La reprise, il viendra probablement beaucoup plus solide dans ces marchés. Les tourismes en arrivant et probablement des conditions sanitaires qui se confirment. Et puis, en conséquence, la consommation qui puisse revenir à des niveaux plus normalisés. Donc, espérons que les tensions concurrentielles soient aussi normalisées. Nous avons une question sur Boulanger. C'est renforcé dans les réconditionnés avec e-commerce. Pensez-vous toujours que Wi-Fi est une arme assez grande et importante pour pleinement profiter de la tendance du réconditionnement en France? Nous sommes très contents d'abord d'avoir intégré Wi-Fi au sein du groupe. Wi-Fi, vous les verrez au cours de l'année, il devient un acteur majeur dans la réparation des qualités et rapide, avec des volumes des réparations qui ont déjà contribué largement à ces 2 millions, à ces plus de 2 millions de réparations en 2022. Donc oui, nous considérons que nous avons les bonnes armes. Et puis, il ne faut pas oublier que Darty, dans ce sens large, c'est la grande outil, les grandes usines des réparations, parce que nous réparons 2 millions de produits à l'année. Ça, c'est totalement incomparable avec n'importe quel autre acteur que vous pouvez imaginer. Donc, Wi-Fi plus l'outil Darty au service de la Fnac Darty, c'est le champion mondial de la réparation. Dans tout niveau des produits, téléphone portable ou électroménager, par ailleurs. Peut-être une question pour toi, Jean Brieux, sur l'évolution attendu du BFR pour 2022?
Alors, le BFR, il a été un peu perturbé sur les deux dernières années. Vous avez vu, en 2020, on avait fait des très grosses ventes de fin d'année. On avait fini les stocks très bas, donc on avait un boni de BFR. En 2021, on normalise. Donc, on a reconstitué tous nos stocks. Et malgré ça, je dis bien malgré cette reconstitution des stocks, vous avez vu qu'on a délivré un cash flow qui est de très, très bonne qualité, à 170 millions d'euros. En 2022, on devra avoir normalement, mais je dis bien normalement parce que ça dépendra de nos marchés, ça dépendra évidemment des conditions commerciales et du marché qu'on pourra avoir en fin d'année, mais on devrait plutôt avoir une normalisation du BFR pour 2022. Donc plutôt, on attend plutôt moins d'impact, soit à la hausse, soit à la baisse, que ce qu'on a pu connaître en 2020 et 2021.
Une question, j'ai une demande pour la régie, il y avait une question pour Syconomy qu'on n'a pas répondu, si vous pouvez la remettre s'il vous plaît. Il y avait une question maintenant sur est-ce qu'on pense que l'empreinte carbone, on parle de la livraison éclairée, c'est l'information qu'on donne à nos clients pour pouvoir choisir la livraison et regarder l'impact carbone de son choix. Et la question qui nous est posée, est-ce que ça peut avoir un impact pour changer les habitudes des clients. Nous, je l'ai dit dans ma présentation, on a déjà plus de 150 produits labellisés comme choix durable. Et ce qu'on constate déjà, c'est que l'évolution des ventes de ces produits est largement supérieure à la moyenne de la catégorie. Donc, il y a des catégories pour lesquelles un des critères des choix aujourd'hui, c'est déjà la durabilité, notamment, ça c'est très évident dans les électroménagers. Donc, la première question que les clients posent, c'est: à quoi je peux m'attendre sous la durabilité de ces produits? Et ça compte pour 50% du choix des clients. Donc, quand vous êtes en capacité de pouvoir éclairer les clients d'un produit vers les moyennes de la catégorie, ça a un impact très positif sur les ventes. Donc, je pense qu'on assiste à un début d'une tendance et les consommateurs ils vont intégrer ça, évidemment, avec des considérations des prix, des designs, des qualités des marques, etc., et des services, mais donc la durabilité. Il fera partie de plus en plus important des critères des sélections. Nous avons une question, voilà. On avait répondu. Voilà, okay. C'est la question sur Syconomy et sur l'Espagne. Pardon, j'avais répondu, je pensais que c'était une autre question. Nous avons une question là sur la Coupe du Monde de football. Est-ce qu'on pense, qui se déroule cette année en novembre-décembre, est-ce qu'on pense qu'il pourrait booster les ventes du T4? Ça, c'est Clément qui nous la pose. C'est la première fois qu'on va assister à une Coupe du Monde en dehors du créneau mai-juillet. Ça va arriver au moment où la consommation, évidemment, est beaucoup plus tonique. Donc on peut s'imaginer des mouvements de marché importants, à la fois en offre et en promotion. Donc oui, on compte que ça va activer les ventes en fin d'année. Les télévisions étaient un des marchés très animés pendant cette période-là, notamment en 2021. Nous avons assisté à des ventes très significatives. Donc, je pense que ça va être un bon défi. Probablement, on peut attendre un premier semestre plus atone, mais clairement, une fin d'année qui est toujours portée par les sports. Donc, oui, on attend un bon boost de vente de la télé. Peut-être Jean Brieux, quel est le mix prix-volume dans la croissance Like for Like en 2021 et quelle est la vision pour 2022, particulièrement sur les volumes?
Alors, en 2021, on a une croissance qui a été tirée par le prix et le volume. Il faut se rappeler qu'on se compare à une année 2020 dans laquelle les magasins ont quand même été beaucoup fermés. Donc on a les effets de réouverture font que les volumes ont été présents dans la croissance, mais également le prix. Et sur le prix, ce qu'il faut bien garder en tête, ce n'est pas de l'inflation, c'est peu de l'inflation. C'est beaucoup de la hausse, de la montée en gamme de nos clients. C'est ça qui est important à noter. Sur 2021, on a vu les prix monter chez nous, mais beaucoup, beaucoup tirés par la premiumisation des achats de nos clients. Il faut bien garder en tête qu'un client d'Artimax, par exemple, son panier moyen est 25% plus élevé qu'un client normal. Donc on voit nos clients qui bougent vers des produits plus chers, mais plus premium et plus durables. Et ça, ça a été vraiment un gros driver de la croissance LFL en 2021. Pour 2022, ça reste aujourd'hui à écrire, hein, 2022. Donc, je ne sais pas si tu veux compléter, mais on n'a pas aujourd'hui le prix-volume de l'année 2022. Bah on le découvrira un peu au cours de l'année.
Oui, évidemment, on commence l'année avec des tensions inflationnistes. Donc, on aura probablement un prix qui va un peu évoluer. On va assister, je l'espère, à une normalisation totale des chaînes d'approvisionnement, donc des tensions qui vont être moins complexes à gérer. Donc on verra quel va être l'impact aussi sur les mix produits. Nous allons assister aussi à une année, j'espère, sans contrainte d'ouverture. Donc les mix naturels des produits culture, technologie vont à nouveau jouer son grand rôle. On a parlé de l'activité service qui a été affectée pendant les périodes de fermeture. La billetterie, donc... On pense qu'on va avoir, et ça c'est un peu la complexité du moment, c'est qu'on a tellement des bases de comparaison un peu altérées que revenir en 2019, c'est probablement pas grand-chose parce que les groupes arrivent énormément à évoluer depuis. C'est référé seulement en 2021, là typiquement au mois de février, nous avions déjà un gros nombre de magasins à Paris et des grandes villes en France fermés. Donc évidemment que les historiques, il faut les regarder d'une manière totalement différente, mais bon. Je pense que ce que vous pouvez retenir, c'est que oui, il y aura probablement un effet dévaste sur l'inflation qui va toucher les produits. Et puis, il y a d'autres phénomènes qui vont pouvoir s'équilibrer. Je ne pense pas qu'on a d'autres questions. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions qui ont été soumises. Bon, en tout cas, on vous remercie de votre attention. Vous l'avez compris, nous sommes extrêmement fiers et satisfaits. Aujourd'hui, c'est une journée un peu difficile pour l'humanité, vous comprenez bien de quoi je parle. Mais en tout cas, nous sommes très fiers des résultats que nos équipes ont réalisés en 2021, très confiants pour la capacité à continuer ces projets. Nous sommes dans un groupe qui se transforme. Il faut regarder les signes de la transformation. Et ces plans hybrides, ils vous donnent les guides pour suivre la transformation autour d'un groupe qui va être en capacité d'être plus digital, plus responsable, avec un profil de service de plus en plus marqué. Donc on est très content que 2021, ça nous a permis de donner les premiers pas de cette transformation, mais c'est que les débuts. Merci beaucoup et à bientôt.